Chapitre 28. Kierkegaard. L'Europe s'achemine lentement vers la faillite.
Hilde regarda sa montre. Il était déjà plus de 4 heures. Elle posa le classeur sur son bureau et se précipita à la cuisine. Il fallait qu'elle se dépêche si elle ne voulait pas que sa mère abandonne tout espoir de voir arriver sa collation. En passant, elle lança un coup d'œil au miroir. Elle mit l'eau à bouillir et beurra quelques tranches de pain à toute allure. C'était décidé. Elle allait rendre à son père la monnaie de sa pièce. Hilde se sentait de plus en plus l'alliée de Sophie et d'Alberto. Ça commencerait dès Copenhague. En un rien de temps, elle fut en bas près du hangar à bateaux, avec un grand plateau.
« Voici ton déjeuner !»
cria-t-elle. Sa mère, un grand morceau de papier émeri à la main, s'essuya le front du revers de la main. Elles s'assirent sur la jetée pour déjeuner.
« Quand rentre papa ?»
demanda Hilde après un moment.
« Samedi, tu le sais bien. »«
Oui, mais quand ? Tu m'as dit qu'il passait d'abord par Copenhague. »«
Eh bien... »
Sa mère était en train de manger une tartine de pâté de foie avec une tranche de concombre.
« Il atterrira à Copenhague vers 5 heures. L'avion pour Kristiansand décollera à 8h15. Je crois que l'arrivée à Kievik est prévue à 9h30. »
« Il aura donc quelques heures d'attente à l'aéroport de Copenhague ?»«
Pourquoi me demandes-tu ça ?»«
Oh, c'est juste pour savoir. Je me demandais comment il rentrait. »
Elles continuèrent à manger. Au bout d'un certain temps, Hilde trouva qu'elle pouvait se risquer à poser la question qui lui brûlait les lèvres.
« Tu as eu des nouvelles de Anne et Holler récemment ?»«
Oh, ils m'ont téléphoné une ou deux fois. Ils rentreront de vacances dans le courant du mois de juillet. »«
Pas avant ?»«
Non, je ne crois pas. »«
Ils seront à Copenhague cette semaine-là ?»«
Tu me caches quelque chose, Hilde. »«
Mais non, rien du tout. »
Ça fait 2 fois que tu me parles de Copenhague.
Ah bon?
Je t'ai dit que papa atterrissait d'abord.
C'est sans doute pour ça que j'ai soudain pensé à Anne et Holle.
Dès qu'elles eurent fini de manger, Hilde rangea les assiettes et les tasses sur le plateau.
Bon, il faut que je remonte lire, maman.
Puisque tu le dis.
N'y avait-il pas un ton de reproche dans cette réponse? C'est vrai qu'il avait été question qu'elle nettoie le bateau ensemble, avant que son père ne revienne.
« Papa m'a en quelque sorte fait promettre de finir son livre pour son retour. »
« Je trouve ça un peu insensé. Qu'il soit absent, c'est son affaire. Mais il ne devrait pas se mêler de ce qui se passe à la maison en son absence et essayer de tout diriger de là-bas. »«
Si tu savais tout ce qu'il dirige, »
répondit Hilde d'un ton mystérieux.
« Tu n'imagines pas à quel point il adore ça !»
Elle monta dans sa chambre et reprit sa lecture.
Soudain, Sophie entendit frapper à la porte. Alberto la regarda d'un air déterminé. « Ne nous laissons pas distraire. » Les coups retentirent de plus belle. « Je vais te parler d'un philosophe danois qui fut bouleversé par la philosophie de Hegel, » commença Alberto. Les coups devinrent à présent si violents que toute la porte fut ébranlée. C'est naturellement encore un coup monté du major qui nous envoie un de ses personnages farfelus pour nous mettre à l'épreuve, poursuivit Alberto. Ça ne lui demande aucun effort. Mais si nous n'allons pas ouvrir, il peut lui prendre l'envie de détruire tout le chalet. Tu as peut-être raison. Allons voir qui c'est. Ils se dirigèrent vers la porte. Étant donné la violence des coups, Sophie s'était imaginé se trouver en face d'un homme immense. Mais il n'y avait sur le perron qu'une petite fille avec de longs cheveux blonds et une robe d'été à fleurs. Elle tenait 2 petites bouteilles à la main. L'une était rouge, l'autre était bleue. « Bonjour, » lança Sophie. « Qui es-tu ? » « Je m'appelle Alice, » répondit la petite fille un peu gênée en faisant une révérence. « Je m'en doutais, » intervint Alberto. « C'est Alice au Pays des Merveilles. » « Mais comment a-t-elle fait pour venir jusqu'ici ?» Alice prit alors la parole. « Le Pays des Merveilles est un pays qui ne connaît pas de frontières. Ça veut dire que le Pays des Merveilles est partout, un peu comme les Nations Unies. C'est pourquoi il devrait être un membre honoraire de l'ONU.
Nous devrions avoir des représentants dans toutes les délégations.
Ah, ce major, grommela Alberto.
Et qu'est-ce qui t'amène ici? On m'a chargé de donner ces bouteilles de philosophie à Sophie, répondit-elle en tendant les petites bouteilles vers la jeune fille.
Toutes deux étaient en verre dépoli. Seul changeait la couleur du liquide, rouge dans l'un, bleu dans l'autre. Sur la bouteille rouge était écrit « Bois-moi » et sur la bleue « Bois-moi aussi ». L'instant d'après, un lapin blanc fila comme une flèche devant le chalet. Il courait sur deux pattes et portait veste et gilet. Il sortit une montre à gousset de sa poche en disant « Oh mon Dieu, je vais vraiment être en retard !» Sur ce, il reprit sa course et Alice le suivit. Elle eut juste le temps de faire une autre révérence en disant « Ça y est, ça recommence !»« Dis bonjour à Dina et à la reine de ma part !» lui cria Sophie avant de la voir disparaître tout à fait. Restés seuls, Alberto et Sophie examinèrent les deux bouteilles. « Bois-moi et bois-moi aussi !» lut Sophie qui ajouta aussitôt. « Je ne sais pas si je vais oser le faire !» Alberto se contenta de hausser les épaules. C'est le major qui nous l'envoie, et tout ce qui vient de lui est de la conscience. Ce ne peut donc être que du jus de pensée. Sophie déboucha la bouteille rouge et la porta prudemment à ses lèvres. Le liquide avait un drôle de goût sucré, en tout cas celui-là. Mais, dans le même temps, tout ce qui l'entourait devenait soudain différent. C'était comme si l'étang, la forêt et le chalet se fondaient en un seul élément. Elle eut bientôt l'impression qu'elle ne voyait plus qu'une seule personne, et que cette personne, c'était Sophie elle-même. Elle leva les yeux vers Alberto, mais lui aussi semblait n'être qu'une partie de l'âme de Sophie.
« Ça fait un drôle d'effet, » expliqua-t-elle. « Je vois tout comme avant, mais c'est comme si tout faisait partie d'un tout. » J'ai l'impression que tout n'est qu'une seule et unique conscience. »
Alberto hocha la tête d'un air entendu. Mais Sophie eut l'impression qu'elle se hochait la tête à elle-même. C'est le panthéisme ou la philosophie de la totalité. C'est l'esprit du monde des romantiques. Selon eux, le monde entier n'était qu'un vaste « je ». Hegel aussi n'oubliait pas l'individu pris isolément et voyait dans le monde l'expression d'une seule et unique raison universelle.
Est-ce que je dois aussi goûter l'autre bouteille?
C'est ce qui est marqué. Sophie déboucha la bouteille bleue et but une grande gorgée. Le goût en était un peu plus acide, mais c'était plus rafraîchissant. Là aussi, tout ce qui l'entourait changea subitement. Les sensations produites par le liquide rouge se dissipèrent instantanément et tout redevint comme avant. Alberto redevint Alberto, les arbres de la forêt redevinrent des arbres et l'étang redevint comme un petit lac. Mais ceci ne dura qu'une seconde, car les choses continuèrent, sous les yeux étonnés de Sophie, à se détacher les unes des autres. La forêt n'était plus une forêt. Le moindre petit arbre représentait à présent un monde à lui tout seul. La moindre petite branche représentait à elle seule tout un univers merveilleux à partir duquel on aurait pu broder 1000 contes. D'un seul coup, le petit étang était une mer infinie, non en profondeur ou en largeur, mais à cause de ses jeux de lumière et du délicat tracé de ses rives. Sophie comprit qu'elle n'aurait pas trop de toute une vie pour regarder cet étang. Et que, même après sa mort, ce petit lac resterait un mystère insondable. Elle leva les yeux vers la cime d'un arbre où s'amusaient trois moineaux. Elle avait bien remarqué leur présence après avoir bu une gorgée de la bouteille rouge, mais sans vraiment faire attention à eux, puisque la bouteille rouge avait effacé toutes les oppositions et les différences individuelles. Sophie descendit les marches de pierre et se pencha au-dessus de l'herbe. Elle découvrit un univers insoupçonné, un peu comme lorsqu'on fait pour la première fois de la plongée sous-marine et qu'on ouvre les yeux sous l'eau. Dans la mousse, entre les brins d'herbe et les bouts de paille, ça grouillait de vie. Sophie vit une araignée qui se frayait vaillamment un chemin à travers la mousse, une petite punaise rouge qui montait et redescendait à toute vitesse le long d'une brindille, et toute une armée de fourmis au travail. Mais chaque fourmi avait une façon particulière de soulever ses pattes. Le comble fut quand elle se releva pour regarder Alberto qui était resté sur le perron. Elle vit en lui une personne étrange, une sorte d'extraterrestre ou un personnage de conte sorti d'un autre livre que le sien. Elle aussi était à sa façon un être remarquable. Elle n'était pas seulement un être humain, une jeune fille de 15 ans, mais Sophie Amundson, la seule et unique. « Que vois-tu ? » demanda Alberto.
« Je vois que tu es un drôle de type. »«
Ah bon ? » ?»«
Je crois que je ne saurai jamais l'effet que ça fait d'être quelqu'un d'autre. Il n'y a pas deux personnes semblables dans le monde entier. »
« Et la forêt ? » ?»«
Elle ne forme plus un tout, mais est un univers merveilleux où se déroulent d'étranges aventures. »
Ça confirme ce que je pensais. La bouteille bleue est l'individualisme. Elle caractérise par exemple la réaction de Søren Kierkegaard à l'égard de la philosophie panthéiste des romantiques. À l'époque de Kierkegaard, vivait un autre Danois, le célèbre conteur Hans Christian Andersen. Il décelait en la nature ses innombrables mystères et en appréciait l'infinie richesse. Il rejoignait en cela le philosophe allemand Leibniz, qui, un siècle plus tôt, avait porté le même regard sur la nature, critiquant ainsi la philosophie panthéiste de Spinoza, comme Kierkegaard critiqua plus tard Hegel.
J'entends ce que tu dis, mais tu es si bizarre que ça me fait rire.
Je comprends. Reprends une petite gorgée de la bouteille rouge et reviens t'asseoir ici sur les marches. Nous avons encore quelques mots à dire sur Kierkegaard avant d'en avoir terminé pour aujourd'hui.